Bon, bah, allez-y, hein. Suivant. Question. Marie, tu disais hier que tu veux parler de certaines choses.
Oui.
Tu veux toujours ?
Oui.
Le temps de respirer.
Moi, j'ai... Alors, moi, j'aimerais bien que tu m'aides à trouver la pensée inconsciente qui fait que... Je suis avec quelque chose d'inconfortable avec mon fils. Bon, je me bats depuis 10 ans avec la drogue, l'alcool et le fils.
Attends, on va déjà s'arrêter là. Je vis quelque chose d'inconfortable avec mon fils. Lorsque j'ai une épine dans le pied et que je pose le pied par terre, c'est inconfortable. Il n'y a aucun doute là-dessus. La question est-ce que j'en fais une histoire ou est-ce que j'ai une épine dans le pied et que je marche en fonction simplement du fait d'avoir une épine dans le pied ? En admettant que je suis pardonné à la nature et que je n'ai pas de quoi enlever l'épine, sinon j'enlève l'épine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tout de suite, ce qu'il y a là, dans ce que tu dis, il y a, je vis une situation inconfortable. Mais peut-être ça, c'est juste la réalité. Peut-être la réalité, c'est juste la situation est inconfortable. Bah oui. En quoi est-ce un problème de vivre une situation inconfortable ? Parce que ça part d'un présupposé, une situation trop inconfortable, il faut la résoudre. Il faut l'enlever, il faut faire quelque chose avec. Mais où est-ce que c'est écrit ?
Parce que ça a généré de la souffrance. Ça en génère moins, mais ça génère...
Toute souffrance est liée à des pensées crues, à des croyances.
Oui.
Sans exception. Pas de croyance, pas de souffrance. Le refus d'une situation étant une croyance. Il y a une pensée de refus. Ça ne devrait pas être comme ça, il faudrait que ce soit autrement. C'est une pensée de refus vis-à-vis de la situation, ça crée de la souffrance. De mal-être à plus grande souffrance. Hein. On va jouer avec les mots, peu importe qu'on dise souffrance ou mal-être, selon le cas, ça va être différent. Mais la souffrance peut être plus ou moins intense. En tout cas, il y a un mal-être, il y a une gêne. S'il y a un mal-être, s'il y a une gêne, il y a toujours une pensée crue, une croyance. Il n'y a pas d'exception. Et par exemple, face à une situation inconfortable, la première chose que vous dites, enfin, on ne pense même pas, il y a une situation inconfortable, on a envie qu'elle cesse. Et ça, c'est pas remis en question. Mais le désir qu'une situation cesse, c'est déjà une projection. Tu vois, ça veut dire que ce serait mieux sans. Il y a déjà l'idée que ce serait mieux sans, il y a déjà l'idée que ce sera mieux plus tard quand. Tu vois ? Et ces idées-là, elles viennent créer un mal-être.
Oui, une résistance.
Oui. Alors, imagine, il y a la même situation, et à la seconde qui passe, tu ne sais pas comment ça sera dans une seconde, dans une heure, demain, t'en sais rien. Et il n'y a pas de pensée de refus. C'est-à-dire que, ah oui, c'est inconfortable. Bah oui, c'est inconfortable. Ouais. Et alors ?
Oui, moi, c'est pas bien, c'est inconfortable.
Oui, et alors ? C'est quoi qui est pas bien ?
Oui, mais c'est pas le but. De rester pas bien, c'est pas le but.
Mais est-ce que tu es aussi inconfortable quand on... Tu vois ?
Non,
oui. Le simple fait de réaliser qu'on est en train de refuser et de dire, oh, tiens, il y a une pensée qui est crue, c'est pas bien comme c'est. Ça va déjà mieux. On n'a rien fait, quoi. La situation est la même. Tu vois ? Et après, qu'est-ce qui fait, alors, premièrement ? Deuxièmement, qu'est-ce qui fait étiqueter inconfortable ? En quoi c'est ce que c'est inconfortable ? Est-ce que ça fait mal dans le corps ? Parce que l'épine dans le pied, ça fait mal quand on pose le pied par terre. Non. Donc, en quoi est-ce que c'est inconfortable ?
C'est C'est les pensées.
Lesquelles?
Pensées de peur.
Voilà. Peur de?
Il est sevré. J'ai peur que ça recommence.
Voilà. Donc peur d'un futur. Une projection d'un futur. Une idée de futur.
Puisqu'il est là et que ça stagne, il passe de l'ordinateur à la télévision, il est quand même là. Et je vois qu'il ne fait pas ce que je... ce qui serait... Enfin, ouais. Qu'est-ce que j'ai dans la tête?
Et voilà. Il ne fait pas ce que j'ai dans la tête qu'il devrait faire.
Oui. Voilà. Donc, oui. Forcément, j'ai des pensées de peur.
Voilà. Est-ce que ces pensées, tu sais, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que tu peux être sûr à 100%?
Non, 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 non.
Alors, est-ce que tu peux... Est-ce qu'elles peuvent simplement passer? Et qu'est-ce qui reste? Mais encore.
Il y a du calme.
Il y a du calme. Est-ce qu'il y a encore de l'inconfort?
Non.
Non.
Non, c'est...
Voilà. Je ne dis pas que ça ne reviendra pas. Parce que les pensées ont cette propension à revenir, tu sais, oui. Boum, boum, comme un marteau sur un coup, ça tape encore, ça revient. Quoi. Mais tu vois, c'est pas compliqué. En réalité, il n'y a pas d'inconfort. Il y a l'idée d'un inconfort lié à des pensées crues. Mais même l'inconfort, il est cru.
Ah, puis il y a plein de pensées. Il y a de la pensée que j'ai la pensée qui peut retomber. C'est voilà. Je me dis, je vais créer qu'il retombe et ça sera ma faute.
Voilà.
Donc,
des pensées sur des pensées sur des pensées qui créent une situation inextricable.
Et ça m'étouffe.
Et regarde ce que j'ai fait, je t'ai arrêté à la première phrase.
Ah oui, tout à fait.
Tu vois, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais juste, je vis une situation inconfortable. Et on regarde de près, il n'y a même pas d'inconfort. Mais qu'est-ce qu'on y croit? Et qu'est-ce qu'on crée avec ça?
Si j'ai un inconfort physique, il fume. Et ça, je ne supporte pas l'odeur de fume.
Bon, mais là, il y a un vrai inconfort physique.
Là, il y a un vrai inconfort physique.
Voilà. Mais là, comment ça se fait? Tu ne lui dis pas d'arrêter de fumer chez toi?
Oui.
C'est qu'il y a des pensées qui t'en empêchent, parce que personne ne fume chez moi. Hein. C'est inconfortable pour moi. Mais c'est simple, non? Pourquoi elle est compliquée?
Elle a peur de sa réaction, peut-être.
Mais c'est des pensées.
Oui, mais c'est des pensées, c'est vrai.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Je le dis, il ne fume que dans un endroit, mais ça continue à ne pas sentir. Enfin bon, il y a deux. Mais c'est vrai. Faut que j'y aurai du poids.
Alors ça c'est un autre thème. Je ne vais pas entrer en conflit. J'ai horreur du conflit. Ben c'est pas vrai. C'est une idée. Mais évidemment que c'est pas vrai. C'est au mieux, enfin ou au pire, je ne sais pas comment dire, c'est un conditionnement de toutes les manières. Et pourquoi on a quelque chose contre le conflit? C'est bon le conflit. Ben, et alors? Ben oui, mais t'as horreur de ça. Et parce que quoi? Oui.
Est-ce que tu vas pas jusqu'au bout, peut-être?
Mais chacun sa réponse. Hein, peut-être toi parce que tu vas pas jusqu'au bout, parce que peut-être elle parce qu'elle en a peur. Mais et alors, qu'est-ce qui risque de se passer? Peur de quoi?
D'envenimer.
Aller au bout des choses. Peur d'envenimer, ça peut être. Mais toi?
Mais si on chasse toutes les pensées, à la limite, on a envie d'aider.
On ne les chasse pas, là. Hein.
Oui, non, mais on a envie d'aider la personne.
Oui.
Donc, si on dit, si on laisse passer pour chasser l'inconfort, on ne trouve pas de solution. Je ne dis pas qu'on peut arriver à en trouver de manière certaine.
Mais le... est-ce que
c'est
le but...
un petit peu fuir les...
Non. Est-ce que le but, c'est de résoudre des problèmes qui n'existent pas quand on les regarde de près, ou est-ce que le but, c'est d'être tranquille et heureux?
Ils existent.
Ben non, puisqu'elle vient de te dire tout à l'heure qu'en fait, il n'y avait pas d'inconfort, que c'est une construction mentale. Tu n'es pas convaincu?
Non.
Mais alors, parle de toi pour toi, prends un exemple à toi.
Pas dans l'immédiat, mais...
En tout cas, tu vois que...
On a envie d'aider les autres.
Oui.
Et Et là, dans le cas présent, bon, on dit non, c'est une situation, on admet, on laisse comme
ça. Stop, stop, stop. Est-ce que ça t'a aidé ou pas ce qui vient de se faire?
Oui, oui.
Dans ton schéma. Oui. Dans sa croyance, ça l'a aidé. Dans son expérience, ça a été aidant.
Oui, non, mais je crois.
Tu peux juste voir que ce que tu dis, ce sont tes pensées,
oui, qui
sont complètement respectables, hein, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais ce sont tes pensées, et forcément, elles conditionnent ton expérience. Si tu ne pouvais pas penser tout ça, si on n'en parlerait même pas, il n'y aurait aucun problème. Pour toi, l'idée que tu te fais de l'aide, c'est résoudre un problème. Mais j'ai résolu un problème. J'ai montré qu'il n'y avait pas de problème.
En fait, depuis l'enfance, on apprend à résoudre des problèmes.
Mais oui,
tout bout de champ.
Mais c'est un conditionnement.
Oui,
mais est-ce que ça nous a apporté le bonheur?
C'est difficile de se détacher de ça.
Bien sûr, mais bien évidemment. Mais c'est bien pour ça qu'on parle de regard et d'y revenir et encore. Mais est-ce que résoudre les problèmes a apporté le bonheur aux êtres humains de façon constante sur cette planète? Moi, j'ai l'impression que souvent, quand on veut résoudre des problèmes, on en crée plus qu'on en résout. En tout cas, ça arrive. D'accord? On a pu résoudre certains problèmes, mais au bout du compte, ça ne nous a pas apporté le bonheur. Un bonheur constant, je parle. D'accord? Quand on voit que ce qu'on appelait problème est en fait une idée qu'on peut juste laisser passer, que donc il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien à résoudre. Et le bonheur est déjà là. Parce que vous êtes le bonheur même. Et donc, automatiquement, c'est ce qu'elle te dit. C'est quand ces pensées tombent, ben, y a juste du calme, de la tranquillité. Il n'y a rien à faire. C'est déjà là. C'est toujours là en fond. Ce qui masque ce calme, cette tranquillité, le bonheur que l'on est, etc., ce sont nos pensées, ce sont nos croyances, ce sont nos constructions mentales, c'est mon histoire personnelle.
C'est-à-dire que souvent, j'ai l'impression que ce que l'on souhaite, ce que l'on fait, on apprend surtout à vouloir résoudre les problèmes des autres avant les siens. C'est-à-dire qu'on pense que c'est parce que on a un problème parce que l'autre a un problème.
Oui, beaucoup de gens pensent que oui, ils ont un problème à cause de l'autre. Oui, mais ça, c'est aussi ce qu'on nous a appris. On nous a appris à nous défendre de notre pseudo-responsabilité parce que sinon, elle est coupable et puis c'est notre faute et patati patata. Mm-hmm. Et donc, du coup, on va projeter nos histoires sur l'autre. Mais ça aussi, c'est
la différence entre les deux.
Ben, en fait, c'est très simple. Dès qu'on trouve le moindre petit mal-être, il y a une croyance qui est venue s'interposer entre ton bonheur, entre le bonheur que tu es et ce que tu es en train de vivre. C'est simple. Peu importe que tu aies l'impression que ça vient de quelqu'un d'autre, de la planète entière ou de toi-même. Cette règle ne souffre aucune exception. Et tu n'es pas responsable de tes croyances. Elles apparaissent, elles sont crues. Donc la question de la responsabilité, encore celle de la culpabilité encore plus, ne se pose pas.
Conscience, donc on a une responsabilité de les laisser vivre ou pas?
Non.
Non.
Même pas.
Même pas?
Ben non. Parce que sinon, tous ceux qui viennent dans des réunions comme ça depuis le temps, ils auraient tout vu et ce serait fini. On n'a pas la capacité de choisir de voir. On n'a même pas la capacité de se mettre à regarder. C'est quelque chose qui arrive. À un moment donné, ce qui est s'exprime en tant que regard à cet instant précis dans telle personne précise. Pourquoi? Personne n'en sait rien. C'est la vie.
On n'a aucun libre arbitre.
Aucun. On en parlait ce matin. On peut en parler si tu veux.
Non.
On peut l'explorer. On n'a aucun libre arbitre. Parce que il n'y a personne. C'est même pas qu'on n'a pas de libre arbitre. C'est qu'il n'y a pas de moi qui pourrait exprimer un libre arbitre ou ne pas exprimer un libre arbitre. Donc là, la question du libre arbitre s'effondre avec l'idée d'un moi. En fait, c'est deux étapes qu'on peut étudier, si tu veux. On peut déjà voir, d'une part, qu'on n'a jamais rien choisi, que donc on n'a pas de libre arbitre, et deuxièmement, que de toute façon, comme il n'y a pas de moi, la question de libre arbitre ne se pose pas.
Donc, c'est toujours. Enfin, effectivement, il y a toujours le côté intellectuel, on comprend les choses, et puis le vivre.
Oui, mais vas-y. Tu crois que tu as du libre arbitre ?
Pardon ?
Est-ce que tu crois que tu as un libre arbitre ? Dans ton expérience ?
Oui, dans mon expérience. Il y a de temps en temps où je fais des choix, où je fais quand même le choix, effectivement, soit de continuer une projection ou de l'arrêter.
Exemple. Peut-être même pas d'exemple. Au moment précis où tu dis maintenant stop, est-ce qu'il y a un quelqu'un qui choisit, bon, maintenant je vais dire stop, et puis après tu dis stop ? Ou est-ce que tout d'un coup ça sort de toi stop ? Est-ce que tout d'un coup ça se fait ? Ou est-ce qu'il y a eu un processus de décision consciente à cet instant précis ? Parce que peut-être tu t'es tourné la tête, tu as tourné l'idée dans ta tête pendant des semaines avant. Hein.
Oui, même des années.
Ou des années.
Oui.
Et tout d'un coup, la décision se prend. Non. Est-ce que c'est toi qui prends la décision ? Est-ce qu'elle se prend ? Regarde. Si c'est pas clair, donne-moi un exemple.
Non, c'est pas clair. Non, parce que j'ai pas l'impression. Pour reprendre toujours les enfants. Très bien, hein, sont de bons exemples de projection. Donc on a toujours. Et c'est vrai que pendant des années, moi maintenant, on souhaite toujours que nos enfants soient comme ci, soient comme ça. Ils ne sont pas. Et maintenant, moi j'arrive, je ne sais pas encore, de me dire, mais j'ai pas fait comme ça, ou moi j'ai pas fait comme ça par rapport à lui, et j'aurais dû faire ci. Pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Non, voilà. Non, ça c'est fini. C'est plus un processus que je dois mettre en face. Donc, j'arrête.
C'est-à-dire que tu as des pensées qui viennent et qui reviennent à propos de l'éducation des enfants. Mmh. Et qu'à un moment donné, tu te rends compte que ces pensées ne mènent nulle part. Et donc, il y a une pensée qui vient se rajouter qui dit stop. Est-ce que ça s'arrête pour autant ou est-ce que ça continue le lendemain, ça revient ou une heure après ?
Ça revient, mais moins tant que.
Donc, depuis le temps que tu te répètes, maintenant c'est fini complètement. Et comment ça se fait alors que tu as dit stop 20 fois, 2000 fois, oui. Ça revient encore, même à minima ?
Oui, mais moins tant, moins d'intoxication.
Et pourquoi ça revient quand même ? Puisque tu as décidé stop une fois pour toutes, il y a 20 ans, pourquoi ça continue ?
Je suppose que c'est parce que c'est toujours le moi. Après, c'est toujours. C'est pas une décision, enfin, c'est pas quelque chose qui
mais est complètement intéressant. Est-ce que c'est toi qui penses ces pensées à propos du passé ou est-ce qu'elles arrivent ?
Moi, elles arrivent.
Elles arrivent ?
Oui.
Est-ce que tu as un libre arbitre sur le fait qu'elles apparaissent sans toi, dans ta conscience ? Ben non, la preuve, quand tu dis stop, ça revient quand même. Est-ce que tu vois un moi dans le fait qu'elles arrivent ? Est-ce que c'est un moi qui les fait arriver ? Tu vois quelqu'un, quelque chose, étiqueté moi qui les fait arriver, les pensées ? Ou est-ce qu'elles arrivent ? Elles arrivent. Alors pourquoi est-ce que tu dis que c'est moi qui pense comme ça ? Il est où ce moi dont tu me parles ? Tu le trouves pas ?
Non.
C'est comme le Père Noël. Est-ce qu'il n'y en a pas ? Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Pourquoi c'est catastrophique ? Ah, en famille qui dit c'est catastrophique. Ce matin, il disait oh, c'est très bien, ça amène le calme, la tranquillité, personne n'a réagi dans l'autre sens. En quoi est-ce que c'est catastrophique ?
Eh bien, parce qu'on peut imaginer que s'il y a un moi qui existe, on peut quand même avoir au
moi avoir peut-être une prise dessus.
Donc si je s'il y a un moi, moi peut avoir une prise sur moi. C'est ça? Explique-moi comment tu fais ça, moi. Ça fait beaucoup de moi, hein. Donc il y a un moi qui fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, il y en a un autre qui va venir, ça ne s'appelle pas l'histoire du surmoi dans la psychanalyse, ça ne marche pas. L'enfant terrible continue à être un enfant terrible. Il y a aussi l'idée surtout que s'il n'y a pas de moi, je suis impuissante. Mais en fait, le moi est impuissant. L'idée que vous avez d'un moi, c'est complètement impuissant puisqu'il n'y a même pas de libre arbitre. Tu ne penses pas les pensées qui t'arrivent. Tu n'as pas le pouvoir de les arrêter. Par exemple, et tu dis « moi pense les pensées, moi devrais arrêter de penser les pensées, moi fais que le moi arrête de penser, mais moi ne peux pas faire que le moi arrête de penser. » C'est une torture sans nom pour rien.
Non, c'est la schizophrénie.
On peut dire ça comme ça, oui. C'est catastrophique. Mais si tu ne pouvais pas penser qu'il y a un moi, mais que simplement tu regardes qu'il y a des pensées qui arrivent, puis qu'il y a une pensée stop qui arrive, puis que les pensées précédentes reviennent, et qu'il n'y avait pas de réaction de refus contre ces pensées, et qu'il n'y avait pas non plus d'accroche à ces pensées, parce qu'il ne faut pas les penser, que vraiment, que simplement elles ne faisaient que passer comme des nuages dans le ciel. Est-ce qu'il y avait encore besoin de faire quelque chose? Ben non. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui apparaissent à propos du passé. J'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Ah, et puis lui, il fait pas ci, il devrait faire ça, etc. Commun à tout le monde en a. Et puis, il y a maintenant, stop, de toute façon, ça sert à rien tout ça, puis c'est le passé. Ouais, c'est une pensée saine, on peut dire. Non, c'est une pensée comme une autre. Et si tu y colles, qu'est-ce que ça fait? Ça veut mettre de côté ce qui est en train d'arriver. C'est un refus de ce qui arrive. Mais les pensées reviennent quand même, parce qu'elles n'en font quand même qu'à leur tête. C'est dans la nature du cerveau de penser, c'est dans la nature du corps de ressentir des sensations. Et enfin, d'avoir de capter des pensées, je dirais, pour le cerveau. Donc il y a un refus. Et le refus, qu'est-ce que ça entraîne? Une contraction. Et c'est pas agréable. Et après, on bâtit une histoire là-dessus. Ah, oh, mais j'arrive pas, et pourquoi j'arrive pas? C'est que mon moi n'est pas assez fort, faut que je le renforce, faut que je le développe, faut que. Et au bout du compte, tu as toujours une pensée, enfin au bout du passé. Alors je propose autre chose. Il y a des pensées à propos du passé. Et alors? Ben oui, il y a des pensées à propos du passé. Ah ouais, tiens, ça pense ça. Ah oui, tiens, ça pense ça. Ah bah oui, tiens, ah bah oui. Mais ce coup-ci, tu regardes les pensées. C'est pas à toi qu'elles arrivent, c'est pas toi qui as quelque chose à en faire. Elles arrivent en toi, elles font que passer comme les nuages dans le ciel. Donc, ah bah oui, il y a les pensées. Tiens, ah bah oui, tiens, ah tiens, ça pense ça. Tiens, c'est bizarre. Ah bah oui, pourquoi pas. Ça peut faire que ça pense à autre chose, ou rien.
Nous a tellement ancré, mis dans la tête, effectivement, c'est cru. Il y avait un moi, qu'on était deux,
en fait, c'est terrible. Oui. Oui. C'est un conditionnement. Alors, je te le répète, peut-être à force, ça va être aussi un conditionnement. Il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais, aucun moi n'a jamais rien fait.
Oui, parce qu'on finit par se demander où est le conditionnement.
Ah oui. Mais c'est juste, tu crois ce que je te dis. C'est un conditionnement, c'est une croyance, de nouveau. Mais par contre, si tu dis, punaise, attends, est-ce que par hasard, il y a une chance sur un million qu'il y ait raison? Explorons-la. Là, ça devient intéressant. Parce que me croire sur parole, ça n'a aucun sens. Mais si maintenant je te dis, avec ce qu'on vient de dire là, si je te redis, il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu, aucun moi n'a jamais rien fait. Comment c'est maintenant? Ça coince encore. Alors allons-y. Ça s'appelle une pensée. Est-ce que tu as pensé cette pensée ou est-ce qu'elle est apparue? Elle est apparue. Avec l'inconfort qui va avec. D'accord? Tu vois à quelle vitesse ça va? Est-ce qu'il y a un moi qui a pensé cette pensée? Tu peux le croire, mais est-ce que c'est vrai? Je crois au Père Noël, hein. Bien sûr que c'est un conditionnement de ne pas vouloir déranger, de ne pas prendre la place, trop de place, etc. Bien sûr que c'est un conditionnement.
Peut-être justement de ne pas vouloir penser qu'il n'y a pas de libre arbitre, ça enlève tellement de... Ça enlève de la puissance, ça enlève, je veux dire, on peut avoir, je ne sais pas si c'est de l'orgueil ou de la volonté de contrôler.
Si je ne peux plus contrôler ma vie, ça va être catastrophique. Quelque chose comme ça? Oui. Et oui, ça t'en es convaincu, ça.
Oui.
Donc, comme tu contrôles ta vie grâce à ton moi, ta vie est merveilleuse.
Merveilleuse, mais enfin, ça pourrait être pire. Hein.
Ça pourrait être pire. Et est-ce que, si tu regardes, est-ce que les côtés où vraiment c'est bien, c'est parce que tu as contrôlé?
Je te fais en sorte quand même que ça se passe bien.
Par exemple? Est-ce que c'est grâce au contrôle que tu as exercé? C'est-à-dire, c'est une stratégie? Une volonté de contrôler la situation? Ou est-ce que c'était parce que c'était l'expression de toi-même, de qui tu es toi en fond? Il y a peut-être les deux. Alors regarde le côté contrôle. Et puis part dans l'autre sens aussi. Regarde le contrôle, est-ce qu'il a toujours été bénéfique dans ta vie?
Tout dépend ce qu'on entend par bénéfique.
Wow, tu t'as apporté du bonheur, de la tranquillité, du paix, de la paix, du calme, ce qui t'a permis de réaliser qu'il n'y avait pas de moi. C'est pas gentil, la dernière phrase, j'en conviens.
Non, ça m'a plutôt crispé. Ça m'a plutôt apporté de la...
La contraction, oui. Et est-ce que cette contraction, elle est intéressante? Elle participe de ton bonheur? Est-ce que tu es mieux quand tu n'as pas cette contraction? Donc tu es en train de me dire que tu es mieux sans le contrôle. Hein, pourquoi veux-tu continuer? Si tu es mieux sans, pourquoi veux-tu continuer à contrôler?
Parce que je pensais que contrôler le non-contrôle.
Tu pensais que...
Contrôler le non-contrôle. Voilà. Je ne contrôlais pas. C'est trop pas ça.
Là, j'y arrive pas, c'est trop compliqué pour moi.
Contrôler la liberté.
La relaxation, vouloir se relaxer.
Ah voilà, c'est-à-dire que voilà. Maintenant je me relaxe, maintenant je me relaxe, maintenant je me relaxe, je veux me relaxer. Ça marche pas. Tu sais, ça c'est l'histoire de la pomme, ça. T'as envie de manger une pomme. Tu regardes une pomme, tu salives rien qu'à la voir. D'accord? Il faut manger une pomme parce que c'est bon pour la santé, c'est plein de vitamines. Tu salives pas en regardant la pomme. Et l'expérience quand tu manges la pomme n'est pas la même non plus. Et tu ne peux pas, quand tu veux manger une pomme parce que c'est bon pour la santé, te mettre à saliver de désir pour la pomme en la regardant. Tu ne peux pas, tu n'as pas ce pouvoir-là.
Je connais bien.
Ben évidemment. Évidemment que tu n'y arrives pas. Mais personne n'y arrive, hein, et personne n'y est jamais arrivé. C'est juste normal. Dès l'instant où tu mets de la volonté, il n'y a plus de détente. Si tu parles de vouloir te relaxer, c'est impossible. Dès que tu mets la volonté, dès que tu veux te relaxer, c'est fini. C'est fini. Mais la peur de perdre le contrôle, ça c'est quelque chose. Qu'est-ce qui va m'arriver ?
Alors que je sorte intérieurement, c'est totalement l'inverse.
En plus.
Mais
bon, la peur. Ben oui. Et elle se manifeste comment dans le corps, la peur ? Contraction ? Quel endroit ? D'accord, le haut du corps. Et c'est cette contraction, est-ce qu'elle est insupportable ? Elle n'est pas agréable. Est-ce qu'elle est insupportable ? Non. Tu pourrais rester avec. Pas trop longtemps. Regarde bien. Si là, maintenant, tu restes avec cette tension dans le haut du corps.
Oui.
J'ai rien de dramatique.
Non,
qui se passe ?
Dramatique, non.
D'accord ? Reste avec. L'idée de la peur, elle est où là maintenant ? Elle s'est dissoute. On n'a rien fait, hein ? Pourtant, la peur, elle était forte. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Elle va revenir. mais tu vois, ce que je souligne aussi à travers ça, c'est qu'il y a plusieurs façons d'aborder les choses, peu importe la façon d'eux. Hein. Ça vient un peu comme ça vient, je vous sors comme ça vient. Et puis il y a des façons de faire qui me parlent peut-être plus que d'autres, c'est aussi pour ça. Mais tu vois que tu peux juste être avec la sensation de la peur. Toi, ah, j'ai peur. Ben, comment je sais que j'ai peur ? Ben, y a des sensations physiques, elles sont où ? Ah ben, elles sont là. Ah oui, ben, comment c'est ? Et juste être avec ce qui est là. La peur, elles sont là. Et si elles ne s'en vont pas, ben, c'est pas grave. Et ben, tu es avec la sensation physique, puis avec la peur. Et alors ? C'est vivant, la peur. Il y a toujours l'idée que la peur doit être résolue parce que c'est inconfortable. C'est une idée !
Non,
je dis pas que c'est forcément confortable.
Ça paralyse la peur. Moi, par exemple, si je dois passer un guet, je fais de la marche,
oui.
J'ai peur de tomber dans l'eau.
Ok.
Voilà.
Okay.
Et ben, je suis là, je suis sûre que d'avoir peur, ça peut me faire tomber.
Oui.
Je n'arrive pas à contrôler cette peur. Enfin, pas bien.
Mais mon conseil serait de ne pas chercher à la contrôler, mais d'être avec, de la regarder de
j'ai
près.
J'ai peur, je regarde
d'être la peur. Avec. Oui, et d'être avec la peur, d'être vraiment. Faire un avec ce qui est là. C'est-à-dire que la peur, par exemple, de traverser le guet, elle te prend dans le corps, elle te prend aux tripes, il y a des tensions, il y a des contractions, il peut même y avoir de la douleur dans un cas comme ça, éventuellement. Si vous imaginez, vous devez franchir un précipice de 50 cm de large, mais de 200 mètres de profondeur. La peur, on la sent. Pourtant, il n'y a aucun risque en réalité. Ce qui prouve bien qu'elle est mentale, d'ailleurs. Et... Donc, juste être avec les sensations de la peur. Ne cherche même pas à franchir le guet la prochaine fois. Reste avec les sensations de la peur. Ne la refuse pas. Accueille-la autant que tu peux. Bon, pareil, c'est des mots, hein, tout ça. C'est vraiment accueil. Et c'est quoi les sensations ? Ah tiens, je suis là, je suis complètement apeuré. Enlève le jeu, peut-être pour la circonstance. Ah tiens, il y a de la peur dans le corps là qui est ressentie, ici et là, ça fait ci, ça fait ça. Et ah ouais. Ah ouais, c'est intéressant finalement, tu vois, juste ressentir ça. Et puis il y a la pensée, oh je peux tomber dans l'eau. Ben ouais, c'est possible. C'est possible. Et en quoi, est-ce que c'est grave ? Regarde, est-ce que c'est grave ? Et alors va au bout même de la pensée. Et qu'est-ce qui va arriver de pire si je tombe dans l'eau ?
Ou je peux être mouillé, ou je sais pas.
Selon les circonstances.
C'est la catastrophe.
Et alors ?
Non, mais j'y vais quand même, je traverse. Mais j'ai une trouille, voilà, j'ai peur.
Mais
explore. Je suis pas à l'aise sur les pierres.
Explore.
Voilà.
Alors attention, parce que évidemment, il y a des situations. Je veux dire, la peur, elle est aussi très fonctionnelle. Elle a complètement sa raison d'être. Hein.
Oui.
Il y a une peur instinctive qui est liée à l'instinct de survie.
Oui.
D'accord. Celle-ci, elle demeurera tout le temps. Mais si c'est une peur qui est trop forte par rapport à la situation, elle est généralement due à une pensée. Ouais, des pensées. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va. Mais c'est pour ça, c'est intéressant de l'explorer. Qu'est-ce qui va se passer de pire? Tu vois, éventuellement. Puis voir qu'en fait, le plus souvent, c'est un pire qu'on craint même pas. Qui ne mérite pas la salade qu'on fait. Et sinon, juste rester avec les sensations. Et accepter qu'il y ait de la peur. Tu vois, parce que souvent aussi, ce qui se passe, c'est qu'on ne veut pas. C'est étiqueté expérience négative, alors on n'en veut pas. Ou alors, il faut résoudre le problème. Sous-entendu, c'est pas bien, de toute façon. Et ces pensées-là, elles créent des choses. Ces pensées-là, elles nous font du tort. Enfin, elles créent des mal-être. Où est-ce que c'est écrit qu'il ne faudrait pas avoir peur quand on doit traverser un gué? Pourquoi on ne devrait pas avoir peur? Où est-ce que c'est écrit que la peur est une expérience négative? C'est pas vrai.
C'est un manque de courage, quoi.
Non,
pour moi,
c'est juste la peur. Mais hier, je disais j'ai peur. Quand est-ce que c'est que j'ai dit hier j'ai peur? Je disais un truc, je dis oulala, j'ai peur. Mais ça m'a traversé, puis c'était parti. Il n'y a pas besoin d'en faire une histoire. Il y a de la peur. Ben oui, il y a de la peur. Ben, c'est quelque chose de normal.
C'est le jugement qu'on met toujours sous.
Voilà, c'est ça. Et puis ce qu'on veut en faire, ce qui doit le droit de citer, ce qui n'a pas le droit de citer. Mais qu'est-ce que serait un bonheur qui rejetterait certaines choses? Qu'est-ce que serait un amour qui rejetterait certaines choses? Du pipi-tcha, on ne veut pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la paix, le bonheur, l'amour, la joie qui ne connaissent pas de contraire, l'accueil qui ne connaît pas de contraire, accueille tout. Tout a droit de citer. Tout. Il n'y a aucun problème, quoi que ce soit qui apparaisse. Ça a le droit d'être là. Et à partir du moment où ça a le droit d'être là, à partir du moment où c'est plus réprimé, repoussé, ça nous traverse. Ça passe. Dans mon expérience, c'est comme ça. Vous avez le droit à ce que vous vivez. Je veux dire, ce que vous vivez, c'est ce que vous vivez. Il n'y a rien à rejeter, quoi.
Tu as parlé hier de quelque chose que j'arrive vraiment pas à intégrer ou à ressentir, c'est qu'on est dans un monde virtuel, sans réalité. Alors là, ça me...
Moi, jette.
Ça me dépasse.
Gérard a dit ça un jour, d'autres l'ont dit d'ailleurs.
Non, d'accord, je voudrais essayer de comprendre parce que... je ressens le monde comme une... un processus créatif, or la création, qui dit création dit réalité.
Ça a une réalité. Un rêve, ça a une réalité. Un mirage, ça a une réalité. Les images d'un film sur un écran, ça a une réalité. Mais c'est pas une réalité définitive.
Non, elle est mouvante en permanence.
Et c'est une réalité illusoire d'un certain point de vue. Tu peux pas te désaltérer dans l'eau d'un mirage. Les images qui sont projetées sur un écran de cinéma, sont de vraies images. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas pour de vrai, quoi.
Oui, d'accord. Mais...
Le rêve, quand tu rêves, tu crois vraiment le temps du rêve au monde du rêve et à ce qui s'y déroule. Et tout s'effondre quand le rêve s'arrête. Ce monde, c'est pareil. Il est créé au fur et à mesure, des milliards de fois par seconde, si tant est que le temps existe.
Ça, je comprends, cette création perpétuelle. Mais la création, justement, implique une réalité, une certaine réalité.
Une réalité qui n'est pas définitive.
D'accord. Moi, je comprends mieux.
Oui, tu poses bien tes pieds par terre. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a bien tous les fesses sur la chaise. Il n'y a pas de problème là-dessus. Cette réalité, elle est existentielle. C'est une réalité existentielle, mais pas absolue.
Oui, oui, d'accord.
Comme le rêve, comme le mirage, comme le film. C'est une réalité imaginaire, illusoire. Enfin, ça dépend des cas, mais voilà. C'est une projection. C'est... Ce qui est se manifeste en tant que. Tout ça. D'un coup. Et en plus, il habite complètement sa création, parce que sinon on ne serait pas conscient.
Oui.
Ce qui est habite complètement sa création, sinon il n'y aurait pas de conscience là. Une image d'un film n'est pas consciente d'elle-même.
Tu vois, tout à l'heure on parlait des pensées. Il y avait une connotation, je dirais, négative. Donc à laisser tomber. On les voit passer. Là, on parle de quelque chose.
Il n'y a pas de connotation négative.
C'est un discours. Là, tu viens de parler, c'est comme un discours.
Oui.
Comme il n'y a pas de connotation négative, elle prend un autre chemin que la pensée qui ne fait que passer. Comment est-ce que je veux dire ? Quand tout à l'heure on parlait de toutes ces pensées, de personnes qui avaient comme ça. Il y avait une connotation de peur, de...
Non, mais c'est pas négatif.
Non, c'est pas négatif, mais dans notre manière de parler, de réfléchir, ça a une connotation négative, quand même.
Ben, pour certaines personnes, dans un certain cadre, etc., oui, d'accord. Mais ce que je dis autour de l'illusion du monde, ça a une connotation fortement négative pour beaucoup de personnes, je peux te dire.
Ouais.
D'ailleurs, tu vois, la salle, elle déborde pas. Fait une réunion politique autour de Sarkozy ou de Hollande, il y aura beaucoup plus de monde. Ben non, mais c'est vrai, non. Je veux dire.
Alors, il y a des pensées qu'on voit passer, et puis il y a des pensées, comme tu viens de parler à l'instant, sur le côté de la création qui se déroule à chaque... C'est un dialogue, c'est quelque chose... Pour moi, c'est comme une pensée.
Pour toi, mais en moi, c'est pas une pensée, sinon j'en parlerai pas.
Bon, bah, je vais m'y prendre encore autrement.
Pardon ?
Je vais m'y prendre encore autrement.
Essaye, essaye. Où est-ce que tu veux me coincer, là ? Tu veux me dire quoi ?
Non, il y a des choses...
J'essaie pas de me coincer. Où est-ce que tu veux dire ?
Non, je n'essaie pas de coincer. J'essaie de comprendre qu'il y a des choses qu'on lâche et d'autres, au contraire, elles nous nourrissent.
Oui.
Là, quand on parlait de création, j'avais l'impression que c'était quelque chose comme une nourriture qu'on a envie de garder.
Que toi, tu as envie de garder, en tout
moi,
cas.
Moi, j'ai envie de garder. Alors qu'il y a des pensées qui arrivent, comme ça, que je n'ai pas envie de garder, je les regarde.
Ça s'appelle les préférences.
Oui. C'est pour ça, la question, c'est est-ce qu'il y a des choses, on doit tout lâcher?
Mais est-ce que...
Mais on doit...
Non, attention.
On doit tout lâcher. On doit laisser passer ça, et puis c'est tout.
Lorsque je dis certaines choses, il y a un oui en toi, qui n'est pas une pensée. C'est-à-dire qu'une une reconnaissance de la vérité, entre guillemets, ou est-ce que il y a des pensées, c'est une pensée, ah ouais, c'est sympa ce qu'il dit, c'est intéressant, il faut que je retienne ça, ah ouais, ça fait du bien d'entendre ça.
Non.
Je comprends. Parce que si c'est un oui intérieur qui ne passe pas par la pensée,
oui, c'est ça.
C'est juste, dang, la cloche qui résonne. Ça fait écho. Ça fait écho. C'est tout. Il y a un écho. Ça ravive. Ça rappelle ce qui est à ce qui est.
Ok. Ok.
Si tu veux, c'est oui intérieur, c'est le oui. On pourrait dire que l'être est oui aussi, tu vois. C'est le oui de l'être. C'est-à-dire que l'être se manifeste, en fait. Ce qui est absolument innommable. On ne peut pas s'en saisir, on ne peut en avoir que le parfum. On peut en ressentir que le parfum, c'est tout. Complètement inaccessible. Demeurera à tout jamais voilé. Comme c'est écrit. Parce que rien de ce qui est, de ce qui existe, rien de ce qui est manifesté ne peut avoir accès à ce qui est en amont, enfin en amont au-delà, avant toute manifestation. C'est pas possible. D'accord ? Donc c'est toujours trop tard, ça aura jamais lieu. Et ce qui est, en tant que ce qui est, se manifeste tout d'abord avec les qualités les plus élevées de la race humaine, les qualités reconnues pour Dieu, etc., qui sont l'amour, la paix, la joie, la sérénité, la tranquillité, le oui intérieur, l'accueil, etc. D'accord ? Et en seconde main, et ça c'est le niveau je suis, je dirais, et ensuite il y a la manifestation. Et si tu veux, lorsqu'il y a des choses qui résonnent et que ça dit oui à l'intérieur, c'est simplement que la conscience est de nouveau en syntonie avec, est à ce moment précis en syntonie avec ses qualités. Histoire de fou, oui.
Dans un monde
illusoire.
Je pensais écrire la matière.
Ah. Ouais, c'est une histoire de fou, tu peux arrêter d'y croire plus tôt. Oui. Mais oui, c'est des pensées se rajouter aux autres pensées. Il y a une pensée moi qui est crue, et puis il y a une pensée de refus qui est crue, et les deux s'amalgament et ça dit je refuse. C'est cru, sans jamais être regardé. C'est pris pour argent comptant.
Et dans cette histoire de fou, contrôler la situation, on appelle ça liberté.
Moi, j'appelle ça une sacrée prison, mais bon, ouais. Chacun son.
On peut avoir le choix. Quand on croit avoir le choix, on se dit tiens, moi j'ai la liberté de choisir.
C'est l'inverse. c'est quand on voit qu'il n'y a pas de choix, qu'il n'y a pas de moi et donc pas de choix, que c'est une vraie liberté. Parce que je suis plus responsable de ce que je suis, enfin de ce qui se manifeste là. Je suis juste là pour être avec, pour le vivre.
On ne fait plus que subir, finalement.
Oh non, c'est l'inverse.
Non, non, mais je sais bien, mais d'une certaine manière, c'est subir.
Non.
C'est être dans la vie, dans le
mouvement. Mais qui subit ? Il n'y a pas de moi qui subit. Pour dire je subis, c'est-à-dire que tu as encore pensé qu'il y a un moi. Si la pensée moi est tombée, il n'y a personne qui peut subir quoi que ce soit.
Mais ça subit.
Mais non, ça subit pas. La vie se déroule.
Oui,
mais je ne suis pas cet organisme corps mental. Je ne suis pas cet organisme.
C'est-à-dire que le mot subir a une connotation de jugement, mais elle se déroule plutôt.
Les choses se déroulent. Mais oui, mais justement, le jugement tombe.
Oui, oui, oui.
Tout jugement est fallacieux. Oui.
Si on subit, à ce moment-là, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de possibilité de joie. Ouais, là, moi, j'entrevois énormément de joie.
Hein. Évidemment.
Mais, et même quand je repense à tout ça, ce que je vis, c'est vraiment là. Oui, mais à ce moment-là, au moins, il me vient une idée.
C'est... Même quand je repense à quoi ?
À mon fils, par
oui.
exemple, là, maintenant, tout de suite,
oui.
J'ai que de la joie et j'ai que ça.
Il y a quelque chose qui a changé ou pas ? T'as vu comment on transforme une situation confortable en situation joyeuse ? On ne change pas la situation. On regarde ce qui se passe.
Ça fait un moment que j'étais pas loin de... Mais là, vraiment, ouais. quoi. Il y a un seul truc, c'est... Mais c'est une pensée négative. Je m'en foutiste, quoi. Je vais aller vers le je m'en foutisme. J'ai l'impression. J'ai un peu peur de ça. Alors,
ben, dans je m'en foutisme, il y a je.
Oui.
Et il y a me. Ça fait trop de moi. C'est vrai qu'il y a... tu sais, même, c'est même dit dans la Bible, hein, ou je sais plus, oui, je crois que c'est dans la Bible, heureux dans le succès comme dans l'échec, dans la richesse comme dans la pauvreté. C'est pas du je m'en foutisme. Est-ce que je vous donne l'impression de complètement me foutre de ce que vous pouvez dire ? Je suis complètement présent, je suis complètement impliqué. Je m'en fous pas. Par contre, une fois dans une conférence, elle avait, mais il résistait, mais j'ai éclaté de rire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir n'importe quelle réaction, peut-être ça va m'affecter une demi-seconde, une seconde, allez. Tu vois, ça va passer, ça va traverser, terminer. Parce que c'est pas refusé. Parce que c'est accueilli de fait, c'est pas moi qui l'accueille, c'est accueilli. Donc c'est vécu, ça traverse, et ça s'en va. C'est pas du je m'en foutisme. Au contraire, il y a de la présence, il y a une vraie liberté, parce qu'il n'y a pas de limite, si tu veux, quelque part. Et quel que soit le résultat, de toute façon, c'est bon, c'est que du bonheur. Comme je disais, je crois que c'était ce matin, les deux choses les plus fréquentes, c'est le rire, moi intérieur, ou être touché aux larmes. C'est l'un ou l'autre. Le plus souvent, en bout de chaîne, l'expérience, ce qui traverse ici, amène ou le rire, ou être touché aux larmes. Dans mon expérience, je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça. Hein. J'en sais rien. Et je m'en fous pas. Et en même temps, les conséquences n'ont pas d'importance. Ce qui va se passer est OK.
Je peux vous dire que dans mon expérience personnelle, c'est au moment où j'ai vraiment accepté qu'il pouvait mourir et que c'était bon.
Eh ben oui.
Qu'il s'en est sorti.
Eh ben oui.
Ah.
Eh ben oui.
Qu'il est vraiment allé au bout, qu'il y a eu l'hôpital, tout machin.
Ben oui.
C'est à ce moment-là. C'est le moment où moi, j'ai dit c'est fini maintenant.
Ouais. Ça m'appartient pas.
Ça m'appartient pas.
Ça m'appartient pas.
Moi, j'ai essayé de contrôler, machin, de me responsabiliser. Alors, j'ai tout fait.
Oui.
Et plus je faisais, plus ça allait. Ouais.
Si tu portais
la
vie.
Je portais tout. Et...
Tu prends la responsabilité de sa vie, oui, d'un point de vue psy, on peut le dire
oui,
comme ça.
Psy,
mais
ça,
si tu veux, mais en réalité, c'est un mouvement. Et ça prouve aussi que tu n'es pas séparé de ton fils, qu'il n'y a pas de séparation.
C'est ça aussi.
Parce que
ça qui est.
Tu vois, une autre manière de dire, c'est qu'il était prêt à donner sa vie pour que tu puisses réaliser ça. Tu vois, c'est, il faudrait le dire dans ce sens-là. Tu vois?
Ah oui, tout à fait. Ça, oui.
Laisse-toi toucher. C'est que du bonheur. C'est ça, l'amour. Je ne dis même pas que c'est vrai, j'en sais rien, je m'en fiche. Mais ce que tu touches, tu peux que dire merci. C'est pas lui, il n'y a pas de moi. Mais c'est la vie. C'est la vie, c'est l'intelligence de la vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. La vie, elle est intelligente. Regardez comment ça fonctionne. Regardez l'organisme humain. C'est une merveille. Nous, on n'aurait jamais pu imaginer ça, quoi. On n'aurait pas pu le faire fonctionner comme ça. C'est pas possible. Vous imaginez le nombre de corps chimiques, de liaisons de gauche et de droite qui fonctionnent toutes seules sans que personne fasse rien. On voudrait nous contrôler ça. Non, mais arrêtez, quoi. On n'a pas le niveau, hein.
Pourquoi on cherche
un peu d'humilité. Regardez tout ce qui est créé dans le monde. Regardez le monde, l'univers. Ça tourne tout seul, quoi. Est-ce que la vie a un jour réfléchi à quoi faire, comment le faire, ou est-ce que simplement elle se déploie? Mon point de vue, je n'engage personne que moi, c'est que la vie est une certaine. La vie est intelligente. C'est l'intelligence, avec un grand I, on pourrait dire, ce qui est intelligence. Et mon Dieu, mais simplement se reposer là-dedans, hein. Tu vois, je veux dire, c'est faire confiance, c'est juste, ok, ça ne m'appartient pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi, pour qui, comment, je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'ai un rôle ou pas, il n'y en a pas, puisque tout ça c'est illusoire. Mais je veux dire, si on parle au niveau existentiel, et ça n'a aucune espèce d'importance, je n'ai pas besoin de connaître le rôle d'un tel ou d'un tel ou de telle chose. La vie se déploie, vous inquiétez pas. Elle s'en occupe très bien sans nous. Sans l'idée d'un moi qui viendrait tout perturber. C'est pas la peine. C'est pas la peine.
La question, c'était ça. Le sens de la vie. Le sens de l'existence, plutôt. Pas de la vie.
Bah, la vie n'a pas de sens dans le sens de but. En tant que but, il n'y a aucun sens. S'il n'y a aucun sens, il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin d'en avoir. De toute façon, tout est illusoire. Et elle n'a pas de sens du tout, et en même temps, ben, tout a du sens, enfin, la seconde qui passe. Et ça se suffit à soi-même, et pour moi, c'est les deux à la fois, et il n'y a aucun des deux, et on s'en fiche, parce que de toute façon, on ne se pose la question du sens que quand il y a une souffrance, aussi minime soit-elle, une recherche, une quête, une interrogation. Sinon, la question du sens tombe.
On est juste traversé par la vie.
Je suis la vie. Et cette manifestation apparente, apparaissante apparemment au sein de ce que je suis, apparaît. Tu vois,
c'est comment c'est comment
c'est extasie,
non?
Ouais.
C'est passé. Je ne me rappelle plus.
Je vous ralentis.
Ah oui, tu es très bien. En fin de compte, la vulnérabilité nous sert énormément pour laisser passer tout.
Je ne sais pas pourquoi tu prends le mot vulnérabilité.
Vulnérable, parce que on a toujours cherché à être fort, à être ceci, à être cela. Alors qu'en fin de compte,
pas contrôler.
Cette solitude qu'on a à l'intérieur, elle nous désarme. Elle est désarmante et on se retrouve vulnérable. Et c'est dans cette vulnérabilité qu'on n'a plus rien, on n'a plus de... Être vulnérable, pour moi, c'est quelque chose qui... Tu peux parler de nudité, je crois que tu parlais de nudité, non?
Oui.
C'est un peu la vulnérabilité aussi. Dans le
dos. Oui, mais non, fais pas une stratégie.
Bon, là... Je regarde comme ça.
Parce que t'es juste sur le côté, c'est tout. N'en fais pas une stratégie, c'est pas il faut que je sois seul et que je sois vulnérable, et que etc. Tu vois, c'est vraiment... Ah tiens, là, je sens... Là, tout de suite, il y a une prise de conscience de « Waouh, la vulnérabilité, en fait, c'est... Waouh, tu vois ?» Tu vois, c'est bon, et c'est profitable. Oui, bien sûr. En tant que prise de conscience, oui, bien sûr.
Ah, d'accord.
En tant que maintenant je vais être seul parce que comme ça je serai plus vulnérable, non. Tu vois, non, ne pas en faire une stratégie, un coup monté. Une vouloir d'aller, un désir d'aller quelque part pour. Parce que ça, c'est du contrôle. Et de même, tu ne peux pas te relaxer quand tu veux te relaxer. Tu peux pas toucher cette vulnérabilité quand tu veux. C'est pas la volonté et le contrôle.
Est-ce que quand on n'a rien, quand on est très pauvre, par exemple, on n'est pas attaché à des... Enfin, qu'on n'a même pas de biens matériels, est-ce que c'est plus facile d'atteindre ça, c'est-à-dire...
Non.
Mais en fait, c'est pas ça que je pensais. Je pensais au peuple qui vit comme les primitivement, quoi, qui sont dans la nature, vraiment en contact. Est-ce qu'ils ont les mêmes...
Pour moi, ce qui va jouer, c'est le conditionnement environnant. C'est-à-dire que plus il y a autour de l'enfant, il y a des gens qui pensent très fort qu'il y a un moi, que c'est une réalité, et plus il va croire qu'il y a un moi. Mais, et plus il est dans un milieu où il n'y a pas cette notion de moi, et plus ce sera facile, probablement. Peut-être même qu'il n'en aura jamais. Enfin, qu'il n'aura jamais la croyance en un moi, j'en sais rien. Si on ne parle jamais du Père Noël, tu ne vas jamais croire au Père Noël. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Mais sinon, je ne crois pas que ce soit une question de bien la question. Liés aux biens matériels, des choses comme ça. Je ne crois pas ça du tout. La richesse et la pauvreté, quand on parle dans la Bible, par exemple, on dit, ça a été bien récupéré par l'Église catholique, quand il est dit qu'il est plus difficile à un chameau de passer par la chatte d'une aiguille qu'à un riche d'atteindre le royaume de Dieu, c'est ça? Déjà, c'est une bêtise en soi, parce que le royaume de Dieu, vous êtes le royaume de Dieu. Donc, point. On ne s'adresse pas. On ne vise pas tant la richesse matérielle que nous avons en gestion et qui ne nous appartient pas. On a simplement en gestion un temps de notre vie que à la richesse en termes de plus de fatuité, d'orgueil, de tout ce que je crois que j'ai, que je contrôle, le moi, en tant que moi, et l'idée que je m'en fais. La vraie pauvreté, ce n'est pas une pauvreté avoir les poches vides et des vêtements rapiécés. C'est être libre de toutes ses croyances, être libre de l'idée d'un moi. La vraie pauvreté, pour moi, elle est là. Et c'est pas pauvre,
c'est pas
pauvre
c'est
de moi.
Ce que je voulais dire, c'était justement d'être détaché des biens matériels. Ce matin, vous avez dit, on s'achète une voiture, on s'achète une maison, et on croit qu'on va être heureux, et on court toujours derrière quelque chose en plus, en plus, en plus.
Oui.
Donc c'était ça, c'était se détacher de tout ça, et est-ce qu'on arrive là à...
Vous ne pouvez pas vous détacher de tout cela en partant de cet attachement me nuit. On peut se détacher de ces choses-là en regardant le désir. C'est-à-dire que j'ai envie d'une voiture, il y a un désir. Ce désir, il est lié à des sensations physiques. Et ces sensations physiques, quelles sont-elles? Comme pour la peur, comme pour n'importe quoi d'autre. Et regardez, et restez avec ces sensations physiques. Les regarder se mouvoir en nous, qu'est-ce qu'elles deviennent? Ça bouge. Le désir peut partir. Et puis, c'est aussi voir que le désir, c'est lié à une pensée future. Lorsque j'aurai cette voiture, je serai plus heureux. En résumé, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et puis je pourrais frimer au moment de ma grosse voiture, etc. Enfin, peu importe les idées qui viennent derrière. Mais ce sont des idées. Ce sont des pensées. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles vont m'apporter le bonheur que je recherche? Est-ce que... etc. Et qu'est-ce qui reste du désir à la fin?
Mais on peut aussi désirer les choses dans le détachement, je trouve, en disant ça n'a pas l'air.
Ça, c'est ce que j'appelle l'allant naturel.
Que j'ai ou j'ai pas.
Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le mouvement, l'allant naturel. C'est-à-dire qu'à l'instant T, il y a une situation, enfin, il y a des choses qui se déroulent et qui se passent. On pourrait dire, j'ai le désir de venir vous parler, c'est faux. Il y a un allant naturel à parler, à échanger à ce propos de tout ça. Si ça se fait, c'est très bien. Si ça se fait pas, ça se fait pas.
De toute façon, tu n'as pas choisi.
Exact. Tout à fait exact. Et ça n'a aucune espèce d'importance. Rien de ce que je dis n'est essentiel.
On peut partir ?
Oui.
Ce ne sont que des mots jetés à travers l'espace. Sentez là tout de suite.
Moi je trouve que la vache dans son pain était mieux. Parce que on parle de beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a une solution à ça?
À quoi ça?
On n'a pas s'attacher aux choses.
Non. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait pas s'attacher aux choses.
Bon, d'accord. Alors, on a des pensées, ce ne sont que des pensées. On a des croyances, qui sont des croyances. Et comment on peut éviter ça?
On ne peut pas. Mais il n'y a pas à les éviter. Parce que ce sera un bonheur conditionné à l'absence de quelque chose. Si ton bonheur dépend du fait que tu as une pensée ou que tu n'as pas une pensée, ce n'est pas le bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Le vrai bonheur, il est constant que tu aies telle ou telle pensée ou que tu ne l'aies pas. Que tu aies tel ou tel bien matériel ou pas.
On est bien comme on est.
Ben, tu ne peux pas non plus te convaincre que tu es bien comme tu es si ce n'est pas ce que tu vis. Mais ton bonheur ne dépend pas de la situation, des événements. Contrairement à ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est tout petit.
Et je ne peux rien changer non plus.
Je ne dis pas qu'on ne peut rien changer. Je dis que ce n'est pas nécessaire à ton bonheur.
Accepter si.
Tu ne peux pas accepter. Il n'y a pas un moi qui puisse accepter. On n'a jamais rien accepté dans la vie. Un jour, ça accepte. Malgré nous. Des fois, on ne voudrait même pas accepter, d'ailleurs, si vous avez bien remarqué. Et des fois, on voudrait accepter, on n'y arrive pas. Des fois, on ne voudrait pas accepter, mais ça accepte quand même. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous voulez rester fâché, puis vous n'y arrivez pas. Que moi je dis, c'est que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un certain degré de mal-être, de malaise, une certaine recherche, disons de bonheur, de paix, de tranquillité, de joie, d'amour, etc. Et que, laisse-moi finir s'il te plaît, et que ce que vous recherchez est en réalité ce que vous êtes déjà en fond et qui n'est pas conscient. Et que pour que ceci devienne conscient, je ne connais qu'un seul moyen, qui est le regard, ou l'écoute, ou être avec, peu importe le mot qu'on met. Et qu'à force de regard, d'écoute, d'être avec ce qui arrive, on se rend compte, on finit par prendre conscience des croyances qui créent le mal-être, et que tout ce qui arrive n'entrave absolument pas le bonheur que l'on est. Voilà ce que je dis, si je dois le résumer comme ça, en quelques phrases.
Qu'est-ce qui pourrait affecter la qualité des pensées alors?
Pourquoi vouloir affecter la qualité des pensées?
Bah, je ne suis pas quelqu'un qui a toujours des pensées négatives, qui finit par sombrer dans une espèce de dépression.
Mais le regard.
Le conditionnement n'influe pas sur la qualité des
Mais bien pensées. Sûr que si. Ah. Mais c'est beaucoup trop fatigant de vouloir se déconditionner. Trop de travail. Le regard. Si tu regardes ces pensées, je veux dire, quelles qu'elles soient, tu vas voir que ce ne sont que des pensées et que si tu déprimes à cause de tes pensées, parce que tu crois dans les pensées, tout simplement. Sinon, elles ne font que passer. Anne, tu avais commencé quelque chose.
Ah non, simplement, je n'étais pas trop d'accord. La quête, ça peut être simplement une grande sorte de vérité, et puis c'est tout, et qui n'a rien à voir avec le fait qu'on est bien ou pas dans la vie.
Oui, c'est vrai. Alors, ça, oui, ça, peut ça comme ça. Son... Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une bonne motivation. C'est vrai que je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, en fait, j'en sais rien. Mais j'ai une impression quelque part qu'il y a un besoin d'être engagé à l'intérieur de soi, d'avoir cette volonté de je veux savoir, quoi, de la vérité, je veux la vérité, je veux, tu vois. Et j'ai l'impression que ça, c'est un moteur puissant et dont il y a besoin. Parce que sinon, les gens, beaucoup, j'ai l'impression, papillonnent et errent. C'est une activité comme une autre, quoi, de venir à des réunions comme ça.
Non, moi je ressens une grande sorte de vérité de savoir. Et même s'il faut passer par des souffrances pour en arriver à connaître cette vérité, c'est sûr.
C'est pas nécessaire.
On ne peut pas faire un troc et des choisir.
C'est pas nécessaire. Mais... S'il y a quelque chose que vous faites pour atteindre la vérité qui vous fait souffrir, arrêtez tout de suite. C'est pas nécessaire.
Si c'était ça.
Oui, c'est pas nécessaire.
Donc c'est pas une recherche de bien-être. C'est pas une...
Oui. Mais vraiment, le mal-être n'est pas nécessaire. Non. Il est vital puisqu'il vous conduit ici. Et il est absolument pas nécessaire. C'est les deux à la fois, encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une démarche, comme dans la vie, allez vers ce qui vous convient. Allez vers ce qui vous parle, allez vers ce qui vous réchauffe le cœur, allez là où il y a de la paix, là où il y a de la joie, là où, ça vous convient dans le mouvement.
C'est pour ça qu'il faut faire des expériences.
Oui.
Il faut aller.
Mais bien sûr.
Dans des endroits.
Ah, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein.
On se rend compte qu'effectivement.
Je peux plus compter le nombre de personnes qui sont assises sur cette chaise ou des chaises équivalentes dans le monde. Donc je ne vais pas dire le contraire.
Savoir ce qui nous convient.
Oui, puis ça peut changer. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne suis pas en train de dire il faut que vous fassiez une chose et rien d'autre. Trouvez ce qui vous convient et allez-y. Je n'ai pas dit ça. À l'instant T, allez vers ce qui vous convient. J'ai souvent vu des gens qui se forçaient à méditer parce que méditer c'est bon pour la pratique et pour atteindre l'éveil, je sais pas quoi. C'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Pourquoi pas, hein? Mais j'ai envie de dire, c'est pas la peine.
Ça permet au cerveau de se calmer.
Même pas. Pourquoi calmer le cerveau? Qui a dit qu'il fallait que le cerveau se calme? Pas moi. Mais qui a dit que c'était trop rapide? Où est-ce que c'est écrit que c'est trop rapide? Mais qui a dit que la fatigue n'était pas saine? Tu dors mieux après. Mais ok, tu ressens une certaine fatigue mentale. Et alors? Quand bien même ce serait vrai. Et alors? Parce que 9 chances sur 10, la fatigue mentale, elle vient de la lutte contre le flot de pensée. Pas du flot de pensée. Parce que le cerveau capte des pensées de façon naturelle sans se fatiguer. Et ça ne peut pas fatiguer le corps. Ça fatiguerait tout au plus le cerveau. Tu vois, c'est comme si tu me disais, ça fatigue le corps d'avoir des sensations. Ça fatigue les yeux de fait qu'ils voient. quelque part, oui, la preuve, on dort le soir. Mais tu vois ce que je veux dire, il n'y a rien d'anormal ou à changer dans tout ça. Il n'y a rien à changer dans tout ça. Par contre, s'il y a un refus du flot de pensée, voilà, il y a quelque chose à regarder. Le refus. Parce que le refus, ça fatigue. La volonté de contrôle, ça fatigue. Je pensais que tout était lié au psy, et puis je me suis rendu compte que non. J'en sais rien.
Est-ce qu'on peut considérer que nos propres pensées induisent une maladie dans le corps,
D'un point de vue existentiel, les pensées peuvent créer des maladies dans le corps. Pas toutes.
Donc, tant qu'on est malade, on est en distorsion avec sa propre nature.
Non. Non, parce que ce serait dire que c'est mal d'être malade, que c'est pas bien, qu'il faut pas faire l'expérience de la maladie. Mais le bonheur inclut la maladie. Ce serait quoi sinon ?
Vous croyez qu'on peut être heureux d'avoir un cancer, par exemple ?
Non. On peut être heureux avec ou sans cancer.
Oui, mais avec.
Avec aussi, bien sûr.
Heureux.
Bah, pourquoi ça entrave le bonheur ?
Ben...
Ce serait un bonheur conditionné. Conditionnel. C'est, tout peut apparaître. Je veux dire, la dernière fois que j'ai bougé des cartons, je me suis coincé le dos. Mais c'était très drôle d'essayer de marcher dans la rue droit, alors que le corps à la fois essayait de marcher droit parce que c'est dans sa nature d'être droit, et à la fois il ne pouvait pas être droit parce que ça faisait mal. Alors tu avais ce mouvement comme ça, qui faisait comme ça, le corps il faisait comme ça. Tu vois, c'était drôle. Je ne demande pas à exploser de rire, où est le problème ? Évidemment, ça fatigue.
La douleur physique.
Mais évidemment, elle est là, la douleur physique, et alors ? Mais on a dans l'idée que la douleur physique est insupportable, que la douleur physique, il n'en faut pas. Mais c'est faux. La dernière fois que j'ai fait une crise de colique néphrétique, c'était il y a déjà quelques années. Ça faisait tellement mal que ça me faisait vomir. Ça fait vraiment très très mal. Et j'étais donc là, au-dessus des toilettes, en train de vomir, et à ce moment-là est apparue l'histoire de moi. Oui, et c'est encore à moi que ça arrive, et je suis tout seul dans mon petit village perdu, et comment je vais faire si ça s'aggrave, et j'en ai marre de tout ce que la vie m'impose. Vous connaissez l'histoire. Mais c'est arrivé là, un paquet. C'est en une fraction de seconde, il y avait toute l'histoire, il faut 10 minutes pour la dérouler. Mais à ce moment-là, il a été vu, c'est pas moi, c'est une grâce, ça a été donné. Ça a été vu qu'il y avait la douleur. Un petit temps d'une microseconde. Et une histoire qui apparaissait à partir de rien, sans aucune racine, tout en bloc. Et il faut 10 minutes pour dérouler la pelote. Et comme à ce moment-là, il a été vu que c'était complètement déconnecté de la douleur physique, qu'il y avait complètement juste une histoire qui se racontait. Enfin, qui se racontait, qui apparaissait. Elle ne se raconte pas, elle apparaît d'un coup dans la conscience. Ça a été vu comme... Ben, c'est pas vrai, ça. Elle est tombée, l'histoire. Et vous savez ce qui est resté ? Un corps qui était en train de vomir et une conscience qui était en train de rigoler. C'est-à-dire qu'à la fois, j'étais amusé, étonné, émerveillé. Oh, oh, mais c'est quoi ça ? Oh, ça c'est drôle alors ! Comme si c'était la première fois de ma vie, quoi. Mais étonné, amusé, émerveillé. Aucun problème avec la douleur. Aucun problème. Si, et seulement si, il n'y a pas d'histoire qui vient de se rajouter. S'il n'y a pas des pensées crues qui viennent s'interposer. Il y a mal, il y a douleur. Mais regardez les animaux, ils ont mal. Ils vivent leur vie. Et s'ils ne peuvent pas, ben ils sont couchés, puis voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se soigner quand on a mal. Hein. Je ne dis pas que... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que ça n'entrave pas le bonheur.
Manifestation
de la vie, oui. De toute façon, regardez, Ramana est mort d'un cancer, je crois, Nisargadatta aussi. Enfin, est-ce que. Pardon ? Krishnamurti. Est-ce qu'ils étaient moins heureux ? À côté de nous, Nicole, je veux dire, elle a mal toute la journée, est-ce qu'elle est pas heureuse ? Évidemment, le corps est fatigué. Évidemment, le corps. Il est faible, il n'en peut pas grand chose quand il y a la maladie. Mais il n'y a personne pour ne pas être d'accord avec ça. Il n'y a personne pour aller à l'encontre de ça. Il y a le corps fatigué. Le corps on ne peut plus. Ouais, alors. Et puis si le corps meurt demain, ce n'est pas un problème. Alors, c'est quoi le problème ? Distingue la souffrance liée à des pensées de l'amour que tu es qui ressent en soi ce que d'autres peuvent ressentir. Distingue le partage, la compassion, toi, de l'idée qu'on s'en fait, de l'idée qui est autour de tout ça. C'est-à-dire que c'est très délicat et très subtil. On pourrait faire plein d'autres réponses à tout ça, hein, je ne dis pas que celle-ci est la meilleure. Mais moi, ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance lorsque des enfants sont maltraités sous nos yeux ou à l'autre bout de la planète. Évidemment qu'il y a une cruauté qui est exprimée. Évidemment que si on est un tant soit peu sensible, si on voit ça, même si c'est des images à la télé, on est affecté. Ce serait, entre guillemets, inhumain de ne pas être affecté. Il n'y a donc absolument pas à ne pas vouloir être affecté, à vouloir que ça s'arrête de nouveau. Par contre, le plus souvent, avec ça, il vient à l'esprit, souvent même pas conscientisé, ça ne devrait pas être, ça ne devrait pas arriver. et je ne peux rien faire pour. Et toi, et toutes ces pensées-là, celles-ci, elles créent de la souffrance en toi. Et elles s'orientent toujours du côté de la victime, l'enfant qui est maltraité. Et on ne va jamais voir que la personne qui fait preuve de cruauté ne fait preuve de cruauté que parce qu'elle-même est très blessée intérieurement. Souvenez-vous des fois où vous avez fait des choses pas très jolies, jolies. C'est toujours parce que vous n'alliez pas bien. Et là, si tu veux, ce qui se passe, l'impression que j'ai quand tu me dis ça, hein, c'est qu'il y a en toi une partie qui est syntonique, qui est accueil de ce qui se passe et qui te remue complètement. Et c'est de l'amour. C'est que de l'amour. Tu vois ? Et que ça ne traverse pas à cause des pensées surajoutées. Il y a aussi l'idée que l'amour que tu peux ressentir à ce moment-là est insuffisant. Il y a l'idée qu'il faudrait faire quelque chose. Il y a l'idée que, je ne sais pas, tu vois, il y a plein d'idées là autour qui ont besoin d'être vues.
Ou alors il y a une hypersensibilité qui est touchée.
Non, ça n'existe pas, l'hypersensibilité.
Propre blessure, propre identification.
Que je suis responsable, que je suis coupable quelque part. Ça réveille une souffrance en
elle. Non ?
Ça réveille une souffrance en elle.
Ça fait écho à
elle. Bien sûr !
Si elle était à la place, etc.
Mais ça, c'est que de l'amour. Et peut-être, ça réveille une souffrance d'enfant, d'enfance en toi, tu vois ? Quand tu étais enfant, des choses comme ça. Mais ça a aussi besoin juste de traverser. C'est-à-dire que s'il y a une projection, si y a une identification comme ça, que tu es comme cet enfant, mais alors c'est l'enfant que tu es, que tu es en train de pleurer. Enfin, c'est le mal sur le malheur de l'enfant que tu es en train de pleurer. Mais accueille-le de la même manière. C'est vraiment, mais sois avec, quoi. C'est parfaitement OK. Arrête d'appeler ça hypersensibilité, ça c'est un jugement alors qui n'a aucun sens. Mais ne résiste pas à cet amour. Ne résiste pas à cette grâce. Sinon, elle va revenir taper à la porte. Hein. Accepte non pas d'avoir été maltraité ou de voir d'autres enfants maltraités, accepte d'être profondément touché à en crever. Et d'être complètement avec, être touché complètement.
Il y a une sensation d'impuissance totale.
Oui, c'est pour ça que je parle d'en crever. Oui, oui. Accepte d'être complètement impuissante, totalement impuissante, complètement défaite. Il peut y avoir une idée de mort pas loin. Hein. Accepte d'en mourir.
fait, petite parenthèse, tout ce que je viens de dire, ça me rappelle une prière que j'ai trouvée un jour dans une vieille église, que j'ai retrouvée par la suite plusieurs fois, et si, autant que je m'en souvienne bien, c'était écrit par un moine. Et cette prière, qui est très courte, disait « Mon Dieu, accordez-moi la sérénité pour accepter ce que je ne peux changer, le courage pour changer ce qui peut l'être, et la sagesse pour distinguer l'un de l'autre. »
C'est Saint-Augustin.
Saint-Augustin. Et j'ai trouvé ça très bien. Et ça me revient souvent.
Saint-Augustin, il a aussi dit « Aime et fais ce que voudras. » Fais ce que tu veux. Respire. Respire.
Rejoins un petit peu. Est-ce que c'est pas cette forme de mémoire émotionnelle, ce conditionnement, c'est un peu pareil, qui nous empêche de pouvoir être dans le regard de ce qui est.
Tu es un regard.
On est tellement absorbé par ce côté émotionnel de notre corps physique qu'on n'est plus dans le regard, justement.
Tu es dans le regard de ce côté émotionnel. Le regard s'arrête jamais, il est plus ou moins conscient, mais il s'arrête jamais. Enfin, c'est tout des mots, tout ça, c'est tout nul. Vous pouvez pas comprendre, c'est beau.
Je pense qu'on parle tous de la même chose, mais de points de vue différents. En fait.
Repose tes questions.
Je me demandais si cette mémoire émotionnelle ou ce conditionnement n'empêchait pas d'avoir ce regard sur ce qui est. Là, maintenant, là.
Si tu veux, l'attention et l'apostrophe, attention, se porte sur. It's a happening. C'est quelque chose qui arrive. Il n'y a pas qu'un contrôle là-dessus. Moi, une chose qui pour moi a été hyper importante, c'est de réaliser à quel point on est amoureux de la manifestation, on est amoureux de nous-mêmes, on est amoureux de ce qui se passe, on est amoureux de notre état, de l'idée d'un moi. On est complètement obnubilé, addict, tu vois, complètement drogué au moi. On en veut encore et encore, on ne veut pas s'arrêter de jouer, quoi. Ouais, c'est une dernière résistance, mais alors je vais arrêter de jouer après. Tu vois, c'était. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, Gérard, ça va pas. Tu vois, c'était. C'est... En plus, c'est faux. Je joue. Je sais pas si je joue beaucoup, mais en tout cas, là, qu'est-ce que ça rigole. Parce que tout est jeu. Mais c'est plus moi qui joue. Enfin, si, ça... l'organisme peut encore jouer, mais il n'y a plus un moi qui joue, il n'y a plus de moi. Tu vois. Mais, ouais, on est amoureux de tout ça. On y croit et on veut y croire. On est fasciné, et puis il y a. Mais qu'est-ce que je ferais sinon, si j'y crois plus, alors ma vie elle va être faite de quoi? Tu vois? Et si j'ai plus le désir alors? Et si je m'en fous de tout? Et si, tu vois, je veux dire. Oui, mais moi je veux avoir un compagnon de vie. Oui, mais moi je veux avoir des. Tu vois? Tout ça, c'est moi, je et en avant, quoi. C'est vrai, comme vous dites aux gens, tu sais, t'es là ou t'es pas là, c'est exactement pareil pour moi.
C'est la déclaration
d'amour. Il y a d'autres déclarations d'amour. Mais il faut y croire. Et en même temps, quel bonheur, quoi. Quelqu'un qui peut te regarder droit dans les yeux avec un grand sourire tout partout quand tu lui dis ça, ça va, c'est bon. Elle a compris quelque chose. Alors, comment c'est maintenant? Tu peux en parler ou pas?
C'est plus doux, plus tranquille.
Bon. Merci à toi. Jette si ça te convient pas.
Non, sinon pourquoi chercher la vérité? C'est quand même un doute.
Ouais, je mets ça un peu autrement. C'est un appel, c'est pas un but. On n'est pas obligé de poursuivre ses buts. C'est vraiment pas nécessaire. On peut rester avec, juste être avec. Tiens-le. Il y a une aspiration à la vérité, il y a un appel à la vérité, il y a une tension, j'allais dire vert, mais pas dans le sens d'un futur, c'est quelque chose de très intérieur. Et si tu restes avec, sans rien faire, si tu te laisses brûler par ça, entre guillemets, il n'y a rien qui brûle, mais tu vois.
Tu
n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Mais parce qu'il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui a quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui peut y arriver.
Voilà. C'est pas possible
de revenir
comme ça tout seul.
Bah si.
Si je cherche pas, si je veux pas.
Il n'y a pas de mérite.
Ça va pas tout seul.
Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite à acquérir. Il y a besoin de rien. Tu es déjà ce que tu cherches. T'as rien à acquérir. Le problème, c'est la recherche.
Mais il y a quand même des milliards de gens qui ne cherchent pas et on voit bien ce que ça
fait. Ils cherchent tous quelque chose. Ils cherchent tous quelque chose.
Ils cherchent le bonheur à l'extérieur. Alors, je parle de la recherche spirituelle.
Oui, oui, mais toute recherche est une recherche de bonheur. Quelle qu'elle soit. Pourquoi les gens de pouvoir, pourquoi ils veulent avoir le pouvoir? Ils croient que ça va les satisfaire. Pourquoi ils feraient sinon? Tous les êtres humains sont en recherche, ils cherchent tous un bonheur constant, durable. Tous, quel que soit l'objet de leur recherche. Vous, c'est la vérité, et puis d'autres, c'est le pouvoir. Mais la quête, c'est la même. Nous, on pense que comme nous, c'est la vérité, c'est mieux.
La vérité, c'est
quand même. Ben oui, c'est pareil. C'est pour ça que je dis c'est le même.
C'est le même. La recherche du pouvoir, c'est un archaïsme. La vérité, c'est quelque chose qui est là. Le pouvoir, on sait bien que...
Il y a peut-être un peu plus d'aveuglement chez certains que chez d'autres, mais il y a la même quête du bonheur.
Dans l'être, c'est une puissance extraordinaire.
Dans la croyance, alors.
dans l'être.
Dans l'être, c'est vraiment oui. quelque chose qui est très puissant, qui est très, très présent, c'est fort. C'est,
Qu'est-ce qui est très présent? L'être.
On
est,
oui.
L'être est présence, tu veux dire?
Oui, c'est puissant quand même.
En quel sens puissant?
Ben c'est tout le temps là, c'est tout le temps présent, c'est,
oui.
ça nous fait faire des tas de choses, ça nous motive, ça, ça nous donne... bon.
C'est sûr que sans l'être, il n'y aurait rien ici.
Oui, mais bon, il y a une puissance extraordinaire dans l'être. On ne peut pas dire que c'est bien que notre moi qui est puissant, quoi que ce soit. Je trouve que la conscience, elle a, pour moi, c'est une puissance extraordinaire.
C'est un mot qui m'est jamais venu, pourquoi pas. C'est vrai qu'on parle d'omnipotence.
Oui, on parle d'omnipotence, c'est la toute-puissance.
Ouais, oui, peut-être, je ne sais pas. C'est un mot qui m'est jamais venu.
Le mot à côté, c'est du pipeau.
Ah, ça, sans aucun doute, oui. Oui. Tu parles de l'être, si on bondit là-dessus, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, essayez un instant de ne pas être. Automatiquement, on sait tous que c'est impossible de ne pas être, on sait tous que l'on est. Et si on reste un instant avec cette conscience d'être, est-ce que cette conscience d'être cherche quoi que ce soit, y compris la vérité? Non. Elle est. Cette étiquette même pas vérité, elle est, point. Et on peut dire qu'elle est vérité. Et ça veut dire que même la recherche de la vérité est entre guillemets une perdition. En ce sens que c'est déjà un après-coup, c'est déjà ne pas. Tant pis, hein. Ne pas être l'être, ne pas s'abandonner à l'être, ne pas se rendre à ce qui est. Aucun n'en est juste. Hein. Et c'est de nouveau le paradoxe qu'à la fois il y a cet appel à la vérité, à la fois il y a tout ce que je peux dire, regarde, mon boucle. En précisant quand même que c'est pas vous, que c'est le regard qui regarde, et à la fois il y a aussi le regard peut aussi se porter sur la recherche de vérité, sur cet appel aussi intense, et cet appel il est manifesté par des sensations physiques, il se manifeste dans les sensations physiques, et si on reste avec ces sensations physiques, avec cette idée de vouloir la vérité ou d'être la vérité ou peu importe ce que le mot qu'on met, si juste on reste avec ça et qu'on ne bouge pas, eh bien il va se passer des choses, croyez-moi. À un moment donné, on est forcément rendu à l'être. C'est pas possible autrement.
Est-ce qu'on peut dire que là on fait le choix de l'être? Parce que finalement le seul choix, ce n'est pas celui entre l'être et le moi, et le soi.
On peut dire tout ce qu'on veut. J'ai quand même bien peur qu'on n'en ait pas le choix.
Pourtant, on fait tout le temps le choix du faux moi.
Non. Non. C'est beaucoup trop de responsabilité. On ne fait pas le choix du faux moi. Il y a identification au lieu de nommer un tel, ou il n'y a pas identification au lieu de nommer un tel. Il y a identification à tel moment et pas à tel autre moment. Et il n'y a personne qui fait ça, ça arrive. Parce que déjà, si tu penses que tu fais le choix, ça veut dire qu'il y a un moi qui peut choisir. Ça veut dire qu'il y a un moi, et ça veut dire qu'il y a une possibilité de choix.
Il y a l'esprit. Donc il y a l'esprit qui après se manifeste.
Est-ce que la vie a fait le choix, l'univers a fait le choix de créer la Terre? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas, c'est des choses qui arrivent, quoi. Est-ce que tu fais le choix de respirer? J'entends que je n'ai pas sûr que ce soit comparable. Et surtout, ne me crois pas sur parole.
Non, ne t'inquiète pas pour ça.
Alors, partons dans l'autre sens. Si tu penses que tu as le choix, pourquoi fais-tu le choix du moi ou le fais le choix de l'être?
Oui, c'est ça le problème. Parce que des fois, que ce soit dans l'action ou dans la réflexion, il y a une fraction de seconde où je sens que je vais soit être dans le moi, l'ego, enfin bon, le petit moi, soit choisir la distance de l'être.
Exact. Il y a des moments dans la vie où on voit qu'on est juste avant la bascule. Ouais. Et on a l'impression de pouvoir choisir. Et pourquoi vas-tu dans un sens plutôt que l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe?
Je ne dis pas que je choisis systématiquement l'un ou l'autre. Si je choisissais tout dans l'être, je serais réalisée.
Non, parce que dans ce cas-là, c'est faire l'expérience de l'être ou faire l'expérience de l'identification. Ouais. C'est pas la même chose encore. C'est autre chose. Mais non, si tu regardes, c'est important, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'à certains moments, on a la pleine conscience que on pourrait aller à gauche ou à droite. On pourrait aller vers quelque chose, une réaction saine ou une réaction moins saine.
Oui, ou la vérité, l'erreur.
La vérité, l'erreur, etc. Oui. Et on a complètement cette conscience-là. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais très souvent, on bascule du côté erreur. Et est-ce que, si tu regardes, et ça demande vraiment beaucoup d'attention, qu'est-ce qui se passe à la microseconde où il y a bascule d'un côté ou de l'autre? Je dirais même à la microseconde où il y a bascule du côté erreur.
Ça m'est arrivé plusieurs fois, et là je souris. Je me souris à moi-même en me disant comme si je m'étais prise sur le fait.
Dans ce cas-là, tu vas pas côté erreur.
Si, ben, je sais que j'y vais, mais voilà, parce que.
Mais qu'est-ce qui fait sourire?
Parce que je me suis prise sur le fait.
Tu as pris quoi sur le fait? Et sur le fait, ça quoi?
J'aurais pu aller de l'autre côté, mais que j'ai préféré.
Comme si tu avais pu avoir le choix, t'allais dire?
Ouais.
Ah, t'as été prise dans ton propre piège.
Comme si, en fait, c'est la facilité. C'est comme si j'avais choisi la facilité.
C'est comme si.
Ouais.
Mais est-ce que tu as choisi la facilité? Ou est-ce que ça s'est fait?
Je sais pas.
Alors, regarde. Vraiment, je t'invite vraiment à regarder.
On dirait qu'à ce moment-là, tu sais, c'est comme un ruisseau. Il y a la pente. Il y a une pente d'un côté, puis une pente de l'autre. Et l'habitude ou le degré de pente fait qu'au moment où il y a ce degré de pente.
Souvent, il y a une pensée qui apparaît juste avant la bascule. Et puis zut, j'y vais. Tu vois, quelque chose comme ça. Mais sauf que cette pensée, elle apparaît et qu'il n'y a aucun choix dessus.
Il y a un manque de confiance. Ça m'apparaît plus familier l'erreur que la vérité.
Donc c'est bien géré.
Ou plein d'autres choses.
Oui,
ça mérite pas,
c'est
plein de jugements aussi.
Mais tous ces jugements, est-ce que tu les choisis? Ou est-ce que c'est des conditionnements?
Oui, c'est des conditionnements.
Donc tu n'as eu aucun choix. Donc si ce sont ces jugements conditionnés qui te font choisir une chose, c'est pas un vrai choix. C'est des choix conditionnés. Enfin, c'est pas un choix.
Mais quand même, il y a ce sentiment. Oui, dans ce cas-là, oui, mais il y a quand même ce sentiment qu'entre la vérité et l'erreur, à un moment, y a parfois le choix de la vérité aussi.
Oui, il y a le sentiment qu'il y a un choix. Je te demande de regarder près, est-ce que réellement il y a un choix ? De même que tu peux avoir un sentiment de manque, une impression de manque, ou une impression d'incomplétude, ou une impression de n'importe quoi d'autre, donc une perte, elle existe. Et je te propose de vérifier.
Bon, en même temps, je ne revendique pas. Je...
Oui, je sais bien que je ne revendique pas. Hein,
le choix, je... voilà, ça m'apporte.
Non, mais attends, on est là pour en parler, pour approfondir.
Hein. Voilà, c'est plus un sentiment que j'ai expérimenté déjà.
Oui, 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 bien sûr. Mais j'adhère complètement à ça. Et vraiment, je te propose vraiment, je t'invite vraiment à regarder de près, est-ce que vraiment il y a choix ? Et s'il y a vraiment choix de ton point de vue, à quoi est-il lié ? Qu'est-ce qui te fait choisir ça ? Et est-ce que les éléments de ton choix étaient choisis ? Parce que si je ne choisis pas les éléments qui me font choisir quelque chose, en réalité, il n'y a pas de choix. Hein. Je suis conditionné à penser que si je meurs en tuant 50 personnes qui croient pas ce que je crois, j'aurai 50 vierges qui m'attendront au paradis. Je n'ai pas fait le choix de me suicider, d'accord ? Ce n'est pas un vrai choix. Tu vois ce que je veux dire ? C'est conditionné, donc il n'y a pas de choix en réalité. On est marionnette de nos pensées, de nos croyances.
C'était pour combien les vierges.
Vas-y, femme.
Il y a des garçons aussi.
Ok. Encore une petite pause.